Et les matins débutent par exemple avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin est dominée par cette extension du couvre-feu décrétée hier par le gouvernement. Extension à 54 départements français désormais, y compris des départements ruraux. La situation est grave, a déclaré Jean Castex, nous l'entendrons.
Nous entendrons également le malaise d'une enseignante fatiguée qui souhaite quitter l'éducation nationale alors qu'une semaine après le meurtre de Samuel Paty, le monde enseignant réclame du soutien et de l'accompagnement.
Nous irons en Pologne également, où le droit à l'avortement déjà très restreint vient de prendre un nouveau coup. Et puis à Londres, où James Bond est accusé de ne pas payer ses impôts. Ce sera à la fin de ce journal. La question du jour à 7h12, Guillaume.
Eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, Anne-Laure. Nous retrouverons mon camarade Nicolas Martin pour une radiographie du coronavirus dans une dizaine de minutes.
L'heure est grave, c'est en substance le message qu'a voulu faire passer le Premier ministre hier soir en annonçant l'extension donc du couvre-feu à 46 millions de Français. Écoutez Jean Castex.
La deuxième vague est là. Disons les choses clairement, la situation est grave. Les semaines qui viennent seront dures. Nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d'augmenter. Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d'après-demain. Tant qu'on n'est pas touché, on se croit intouchable. Pourtant, ce virus frappe tout le monde. Il concerne tout le monde, jeunes et moins jeunes, en ville comme à la campagne.
Jean Castex, hier soir. Et de fait, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas confirmés de Covid-19 pour 100 000 habitants, a progressé de 40% en une semaine. 41 622 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, soit 15 000 de plus que la veille. C'est un nouveau record. Le Premier ministre n'a pas écarté l'hypothèse de mesures encore plus restrictives si la courbe ne s'infléchit pas. En attendant, ordre est donné à de nombreux Français, y compris dans les zones rurales, comme la précisé le Premier ministre, de ne plus sortir de chez eux après 21h. On fait le point sur la carte de ce nouveau couvre-feu avec Margot Delpierre.
38 nouveaux départements sont concernés par le couvre-feu ainsi que la Polynésie française. Du Pas-de-Calais aux Alpes-Maritimes, du Calvados à la Savoie, pendant 6 semaines, a priori, il faudra rester chez soi entre 21h et 6h dans l'ensemble des territoires touchés. D'ailleurs, dans les grandes villes où le couvre-feu était déjà en vigueur depuis la semaine dernière, la mesure s'étend aussi aux départements. Alors si on additionne, cela fait en tout 54 départements et un territoire d'outre-mer concernés, ce qui représente 46 millions de Français. Autant de personnes qui devront faire preuve de patience, le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Il est trop tôt pour pouvoir tirer les conclusions et les enseignements de l'impact de ces mesures pour freiner l'épidémie. Un rappel, lorsque le confinement généralisé a été mis en place dans notre pays, les courbes ont commencé à s'infléchir à partir de 15 à 18 jours. C'est le temps qui est nécessaire pour véritablement mesurer l'impact des mesures que nous prenons. Et effectivement, en début de semaine prochaine, nous espérons des premiers signes, un frémissement de l'incidence à l'échelle du pays.
Le dispositif sera donc réévalué dans les prochains jours et peut-être durci si le gouvernement l'estime nécessaire. Car le mois de novembre risque d'être éprouvant, le nombre de morts va continuer d'augmenter, a affirmé le Premier ministre. Pour le moment, le couvre-feu semble plutôt respecté. Depuis samedi dernier, les forces de l'ordre ont effectué plus de 32 000 contrôles et verbalisé 4 800 fois.
Autre annonce gouvernementale hier, les acteurs du spectacle vivant et du cinéma vont recevoir respectivement 85 et 30 millions d'euros d'aides supplémentaires. Roselyne Bachelot proposera également au Parlement de prolonger l'exonération de la taxe sur les spectacles au premier semestre 2021. Enfin, au niveau mondial, le bilan de l'épidémie continue de s'alourdir puisque, selon un décompte de l'agence France Presse issue de sources officielles, le coronavirus aurait fait au moins 1,13 millions de morts depuis la fin décembre. Plus de 41 millions de malades ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé, suivi par le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, le monde enseignant est toujours sous le choc. Hier, les syndicats de l'éducation nationale ont été reçus à leur ministère de tutelle en demandant notamment que le 2 novembre au matin, le jour de la rentrée, un temps banalisé soit laissé aux équipes pédagogiques pour partager l'émotion, poser des questions sur la façon dont l'institution a accompagné les collègues et sur l'enseignement de la laïcité. Un temps laissé aux professeurs sans les élèves, dont la question se pose également de comment les accueillir par la suite. Des enseignants qui, depuis le confinement et plus généralement ces dernières années, se disent fatigués, non soutenus par leur institution, non reconnus par les élèves et leurs parents. Écoutez ce reportage d'Arnaud Rozac qui a rencontré une professeure des écoles dans les Hauts-de-Seine, Ursula, 25 ans de carrière, en arrêt depuis 2 ans et qui souhaite désormais démissionner.
Sur son canapé, Ursula se gratte les cuisses nerveusement. Elle le sait, elle ne fera sans doute jamais le deuil de son ancienne vie. Pour cette fille d'immigrés polonais, professeur, c'était le métier de ses rêves. C'était la possibilité de rendre ce que l'école lui avait offert.
Ça m'arrivait de me dire, tu pars au combat ce matin. Et c'est embêtant de se dire que le métier qu'on a choisi finit par vous faire du mal. J'ai toujours été très fière d'être enseignante. Mais quand le médecin vous propose des médicaments pour être apte à aller travailler, là j'ai dit non.
En 25 ans de carrière, Ursula a vu ses conditions de travail se dégrader petit à petit. Des classes surchargées, des semaines de travail de 50 heures et une vie de famille reléguée au second plan.
J'avais le sentiment que ma vie était totalement envahie par mon travail. Dans nos équipes, il y a eu des collègues qui ont fait des tentatives de suicide. Quand on entend dire à l'extérieur que les enseignants sont soit malades, soit en grève, soit en vacances, à un moment donné, on est découragé.
Ursula a également vu la question religieuse s'immiscer de plus en plus dans son métier sous la pression de certains parents. De fait, la mort de Samuel Paty l'a beaucoup choquée, mais ne l'a pas étonnée.
Quand on rembobine un petit peu l'histoire, on se dit que peut-être il y a eu aussi une escalade un petit peu de faits. Moi, j'ai entendu des élèves dire au moment de Charlie Hebdo, c'est bien fait, il fallait pas offenser le prophète. Nous devions faire remonter ce genre de faits. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose derrière.
2 ans après son départ, Ursula culpabilise encore et toujours de ne plus voir ses élèves. Mais l'ancienne prof l'affirme, cette décision était devenue vitale pour elle.
Et le Grenelle de l'éducation qui s'est ouvert hier au Conseil économique, social et environnemental a notamment pour mission de remettre à plat la manière dont l'éducation gère, ou plutôt ne gérait pas jusqu'à présent, ses ressources humaines pour qu'il y ait, selon Jean-Michel Blanquer, du bien-être professionnel.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin, un jour triste pour les droits des femmes en Pologne. C'est ainsi qu'a réagi la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe après la décision du tribunal constitutionnel polonais de limiter encore plus le droit à l'avortement dans le pays.
Oui, la cour polonaise a donc jugé anticonstitutionnelle la possibilité d'avorter en cas de grave malformation du fœtus. Une décision qui a suscité la colère des défenseurs du droit à l'avortement dans un pays où la loi est déjà extrêmement restrictive. Le reportage de la correspondante de RFI pour France Culture en Pologne, Sarah Bakaloglu.
Devant le tribunal constitutionnel de Varsovie, Justyna Samolinska assiste impuissante à la joie des militants anti-avortement. Celle qui défend le droit à avorter dénonce une situation déjà très compliquée pour les femmes polonaises.
Ce changement est plus symbolique qu'effectif parce que sur 40 millions d'habitants, on a environ 1 millier d'avortements légaux par an. Si vous avez vraiment besoin d'avorter, en passant par le système de santé polonais, c'est presque impossible, même en cas de grave malformation du fœtus.
Jusqu'à hier, l'avortement était autorisé dans 3 cas seulement après un viol en cas de danger pour la vie de la femme ou de graves malformations du fœtus. De nombreuses Polonaises viennent donc chercher de l'aide auprès des ONG, des demandes qui devraient augmenter après la décision du tribunal constitutionnel. Natalia Broniarczyk de l'organisation Avortement sans frontières.
On a lancé notre association il y a 1 an. On a déjà aidé 3000 femmes. Pour nous, cette décision de justice veut simplement dire qu'on aura 2 fois plus de travail. C'est une mission éprouvante qui devrait être soutenue par notre pays, mais ce n'est pas le cas.
Une décision qui a été saluée par le président polonais dans un pays où l'Église catholique est influente. Nous sommes ravis que le tribunal constitutionnel ait pris le parti de la vie, a déclaré son porte-parole.
Un débat moins inaudible que les précédents, peut-être grâce au micro coupé pendant une partie du débat. C'est ainsi qu'on peut résumer la dernière confrontation entre les 2 candidats américains à la présidentielle. Elle a eu lieu hier à Nashville, dans l'État du Tennessee. Un débat moins chaotique, moins truffé d'interruptions, pendant lequel le démocrate et le républicain se sont opposés, notamment sur la crise sanitaire qui ravage le pays. Quiconque responsable d'autant de morts ne devrait pas rester président des États-Unis, a déclaré Joe Biden. Donald Trump, qui a minimisé longtemps la gravité de la situation, a défendu son approche face à l'épidémie et affirmé que le plus dur était passé. No time to pay tax en français. Payer ses impôts peut attendre. Ça n'est pas le titre du dernier James Bond, mais ça pourrait. C'est en effet en référence au film No Time to Die, qui doit sortir le mois prochain sur nos écrans, qu'un institut d'études sur la fraude fiscale a nommé un rapport qui révèle que les studios de production de la franchise James Bond, les studios Eon, ont reçu des dizaines de millions d'euros d'exemptions fiscales, alors même qu'ils réalisent très peu de bénéfices au Royaume-Uni. Les explications depuis Londres d'Otsoufi.
120 millions de livres de crédit d'impôt depuis 2007 pour les studios basés ici à Londres qui produisent les James Bond, avec un record pour le dernier de 47 millions. Pourtant, Eon Productions ne réalise que peu de bénéfices au Royaume-Uni, même si chaque nouvel épisode génère 750 millions dans le monde. L'entreprise britannique ne paye donc qu'un faible impôt sur les sociétés, notamment grâce à un montage par lequel les films qu'elle tourne et produit sont revendus à une autre installée dans le Delaware, un État américain au régime fiscal très avantageux. Rien pourtant d'illégal à proprement parler, puisque l'exemption d'impôt est attribuée si l'œuvre est culturellement britannique et qui est plus british que l'agent 007, mais l'industrie du film grince des dents ici, alors que beaucoup d'entreprises ont déjà mis la clé sous la porte à cause de la crise et que la plus grande chaîne de cinéma du pays, Cineworld, a annoncé la fermeture de toutes ses salles au Royaume-Uni et le licenciement de 45 000 employés dans le monde, à cause notamment du report de la sortie de No Time to Die.
Aude Soufi, le temps de ce vendredi, il s'améliore sur le nord et le nord-ouest. Ailleurs, ce sera un ciel agité avec des averses parfois orageuses qui s'espaceront dans l'après-midi. Ce matin, les températures iront de 9 à 12 degrés au nord et au nord-ouest, de 12 à 15 degrés ailleurs jusqu'à 18 en Méditerranée. Cet après-midi, il fera de 15 à 19 degrés sur la plupart des régions, 20 à 25 en Méditerranée.